première partie de l'évangile de saint Marc. Nous avions achevé cette première partie avec la profession de foi de saint Pierre. Un évangile encore. Survécu. Voilà, donc cette belle scène à Césarée de Philippe, le Seigneur Jésus qui pose cette double question pour les hommes, qui est le Fils de l'homme, et pour vous, qui suis-je? Donc là, la question qui devient beaucoup plus personnelle, qui est la rencontre entre le vous des apôtres et le je de Jésus. Et alors que, au dire des foules, eh bien, Jésus n'est qu'un prophète, n'est qu'un homme de Dieu parmi tant d'autres hommes de Dieu, eh bien, pour les apôtres, il est le Christ, et c'est avec cette première profession de foi, dans le caractère messianique de Jésus, que s'achève cette première partie. Alors, naturellement, dans cette première partie de l'évangile, Jésus a dit beaucoup plus que le simple fait d'être le Messie, on l'a vu. Jésus s'est présenté à travers ses miracles et son enseignement comme le Fils de Dieu. Il nous a appelés à devenir fils de Dieu. Il nous dit que cette réponse à son appel est la foi. Donc évidemment, il a dit beaucoup plus que le simple fait d'être le Messie dans cette première partie. Mais c'est une manière pour saint Marc de respecter son plan évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc la profession de foi de saint Pierre en Jésus-Christ clôt la première partie. La profession de centurion en Jésus, Fils de Dieu, viendra clore la seconde partie. Donc nous avons terminé cette première partie, donc par une logique implacable que Descartes n'aurait pas renié, nous allons commencer la deuxième. Alors la deuxième partie, naturellement, pour vous la situer rapidement, Jésus ne va pas dire des choses radicalement nouvelles, puisque le cœur du message évangélique est déjà contenu dans la première partie. Jésus, Fils de Dieu, nous appelons à devenir enfants de Dieu, nous invitons à donner la réponse de la foi. Imaginez que la deuxième partie, Jésus ne va pas dire, en fait, j'étais pas le Fils de Dieu, vous n'êtes pas du tout appelé à devenir enfants de Dieu, et surtout, n'ayez pas la foi. On imagine bien qu'il ne va pas prendre le contre-pied de ce qu'il a déjà dit. Or, là, il a annoncé déjà le cœur du message évangélique. Donc, dans la deuxième partie, que va-t-il se passer? Eh bien, Jésus va naturellement approfondir ce message, le cœur de ce message, mais il va y ajouter une dimension essentielle qui est la croix. C'est-à-dire que cette mission de Jésus, Fils de Dieu, qui nous appelle à devenir enfants de Dieu dans la foi, eh bien, le sommet de cette mission, c'est la croix. C'est l'offrande que le Fils de Dieu fait de lui-même, offrande dans laquelle il nous invite à entrer. Vous voyez, à la fois la première partie, d'une certaine manière, avait déjà tout dit, elle avait dit le cœur du message évangélique, et en même temps, on comprend bien qu'avec cette deuxième partie centrée sur le mystère de la croix, on ne va pas faire que redire ce qui a déjà été dit, puisqu'on apporte une dimension essentielle, c'est-à-dire que ce message de Jésus n'est pas un message purement verbal, n'est pas juste un enseignement, même agrémenté de miracles. Ce message de Jésus, il va le vivre tout spécialement dans son offrande qui va du jeudi saint au soir jusqu'au dimanche de Pâques au matin, puisqu'on dit la croix, c'est évidemment indissociable de la messe, du lavement des pieds et de la résurrection le jour de Pâques. Donc c'est ce sommet de la vie de Jésus vers lequel il va marcher désormais dans la deuxième partie de l'évangile de saint Marc et voilà, qui donne, je dirais, une dimension à la fois tragique et en même temps éminemment personnelle et éminemment aimante à toute la première partie. Jésus ne va pas dire des choses radicalement nouvelles, mais il va nous les dire du haut de la croix, et il va nous les dire dans la lumière de Pâques, ce qui évidemment change tout d'une certaine manière. Si on se dit, bah oui, Jésus est le Fils de Dieu, ce qu'on a appris dans la première partie, et c'est ce Fils de Dieu qui donne sa vie pour nous, évidemment, ça a une toute autre incidence. Jésus nous appelle à devenir enfants de Dieu, et pour cela, il nous appelle à prendre son chemin, qui est un chemin de croix et de résurrection, eh bien, ça a une autre incidence pour nous. Jésus nous appelle à la foi en un Dieu qui nous aime au point de nous donner son Fils, évidemment, c'est une autre incidence pour nous. Donc, je dirais, voilà, c'est pas forcément le fond du message qui est changé, mais c'est la lumière qui va tomber sur ce message, la lumière qui vient de la croix et de Pâques, qui lui donne un éclat nouveau. Ça va? On n'a pas perdu tout le monde? Très bien. Alors, comme on disait, cette deuxième partie de l'évangile de Saint-Marc, c'est une montée vers Jérusalem. Alors, géographiquement, c'est évident, c'est une descente. Puisqu'on parle de Galilée, on parle de Galilée pour aller vers le sud, mais le juif pieux monte toujours à Jérusalem, d'où qu'il vienne, à la fois parce que le temple était situé sur une petite colline, et puis aussi parce que, de même qu'on monte vers le ciel, on monte vers Jérusalem, on ne descend pas vers Dieu, on monte toujours vers Jérusalem. Donc, la deuxième partie de l'évangile va être cette montée progressive de Jésus en compagnie de ses apôtres vers Jérusalem. Donc, montée concrète, évidemment, avec leurs pieds, avec leurs jambes, mais aussi montée en intensité dans ce drame, dans cette tragédie, puisque petit à petit, le Christ, au cours de cet itinéraire, va leur dévoiler le mystère de la croix qui s'annonce. Donc, c'est ça, la deuxième partie de l'évangile. Oui.
En fait, la plus grande annonce de cette partie, c'est la croix, ou aussi c'est l'annonce de la vie éternelle. Est-il évoque en fait la vie éternelle jusque-là? Jusque-là, il n'a pas évoqué la vie éternelle, parce que la passion n'a pas de...
Oui, il y a beaucoup de paraboles sur le royaume, quand même, donc le royaume, c'est quand même la vie éternelle. Après, c'est sûr qu'il serait toujours dangereux de ne voir que la croix le vendredi saint. Donc, c'est pour ça que je dis que le mystère de la croix, il est du jeudi soir au dimanche matin. Donc c'est la croix glorieuse. Enfin. Mais la nouveauté qui va être une pierre d'achoppement pour les apôtres, c'est pas tellement l'évocation du royaume des cieux, même si peut-être qu'ils n'en ont pas une idée tout à fait clair, et que cette notion de vie éternelle est encore relativement nouvelle dans le judaïsme de l'époque des apôtres, puisque elle n'intervient vraiment dans la révélation biblique à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ. Mais ce qui est vraiment la radicale nouveauté inattendue et scandaleuse, c'est quand même la croix. Donc, juste un petit point, donc cette construction de l'évangile de Saint-Marc, on l'a déjà dit mais je le redis, est un peu schématique. C'est-à-dire que Saint-Marc construit son évangile sur un schéma assez simple qui sera celui de notre pèlerinage en Terre Sainte, à savoir, grosso modo, on part du Jourdain avec le baptême et les 40 jours près de Jéricho. Ensuite, on monte en Galilée. En Galilée, notamment à Capharnaüm et autour du lac, et avec des petites pointes en territoire païen, se passe l'essentiel du ministère de Jésus. Et ensuite, eh bien, on monte vers Jérusalem pour ce qui est le sommet de la vie du Christ. Alors, c'est le schéma que prendra le pèlerinage en Terre Sainte, donc c'est très beau de ce point de vue-là de se mettre vraiment dans les pas de l'Évangile. Après, la chronologie historique plus précise qui nous est donnée en Saint Jean, nous montre qu'en fait Jésus et les apôtres n'ont pas cessé de faire des allers et retours entre la Judée et la Galilée. Donc il y a un côté un petit peu schématique, simplifié, pour que ça puisse être retenu facilement par les lecteurs de l'Évangile, et la réalité historique qui est un petit peu plus complexe, puisque la vie publique de Jésus est 3 ans, chaque année Jésus est monté au moins une fois à Jérusalem, et puis on voit qu'il y a des allées et venues de Jésus dans toute la Terre Sainte. C'était pas le propos non plus de Saint-Marc de faire un compte-rendu exhaustif, donc il a fait une présentation catéchétique, un peu schématique, pour que ça puisse être retenu. Mais d'avoir en tête que notre pèlerinage suit ce schéma de Saint-Marc mais en même temps que ce schéma de Saint-Marc ne suit pas, en revanche, forcément, le pèlerinage de Jésus qui, lui, était un petit peu plus long et tumultueux. Donc, sinon, si la vie publique de Jésus aurait duré 8 jours, comme notre pèlerinage en Terre Sainte, mais elle a duré 3 ans. Donc, c'est un peu plus long. On aurait pu partir 3 ans, mais... je ne sais pas comment les autres paroissiens l'auraient pris, mais... et mes supérieurs aussi, plutôt. Alors, nous recommençons notre lecture. Donc, nous étions au chapitre 8, verset 31. Donc, vous voyez, si vous avez l'édition verte de l'Évangile, vous avez « Grand 2, Jésus, Fils de Dieu », donc ce qui confirme que nous rentrons à la deuxième partie, qui culminera avec cette profession de foi du centurion « Jésus, Fils de Dieu ». Et donc, 1 en gras, vers la passion, marcher à la suite de Jésus. Donc, on retrouve cette idée de la croix qui va être maintenant le fil directeur. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de Dieu aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Déjà, arrêtez-là. On peut relire le passage silencieusement, chacun de son côté. Quelle correspondance vous pouvez voir entre ces deux passages qu'on vient de lire, entre l'annonce de Jésus, de sa passion et de sa croix, la réaction de Saint-Pierre, et puis après, ce que Jésus dit à propos du vrai disciple. Déjà dans la position spatiale, je dirais, du vrai disciple et de Saint-Pierre, qu'est-ce qui est dit? Oui, puis dans la position du disciple par rapport à Jésus. Où est le vrai disciple? Le vrai disciple est derrière, je trouve. Ouais. Oui. Déjà, position spatiale, le vrai disciple de Jésus est derrière, il vient à sa suite. Alors que là, Jésus est obligé de dire à Saint-Pierre, passe derrière moi Satan. Ce qui veut dire que pour l'instant, Saint-Pierre n'est pas derrière Jésus, mais se tient plutôt devant. C'est-à-dire que Saint-Pierre fait obstacle, finalement, à la volonté de Jésus. Donc, Jésus monte vers Jérusalem, s'engage sur le chemin de la croix, et Saint-Pierre, soit spatialement, soit spirituellement, se met devant lui pour lui faire obstacle. Non, cela ne t'arrivera pas, et que racontes-tu? Donc Saint-Pierre lui fait de vifs reproches. Et Jésus est obligé de dire, mais la position du vrai disciple n'est pas devant. Ça, c'est la position de Satan, qui est, par définition, celui qui fait obstacle. La position du vrai disciple, elle est derrière. Elle vient à la suite de Jésus. Donc déjà, il y a une première correspondance, on va dire. Après, on peut voir une deuxième correspondance dans, évidemment, l'attitude par rapport à la croix, qui est beaucoup plus fondamentale. Le vrai disciple prend la croix. Le disciple prend sa croix avec le Christ. Il prend même la croix du Christ comme Simon de Cyrène. C'est-à-dire, ce n'est qu'une, et jamais qu'une croix, qu'une offrande, celle du Christ et la nôtre. Alors que Saint-Pierre, lui, évidemment, se rebelle devant la simple annonce de la croix. On n'est même pas à Jésus qui lui demande de prendre lui aussi part à la croix, mais le simple fait que Jésus annonce sa croix, Saint-Pierre est en pleine rébellion. Donc là aussi, on voit correspondance, mais plutôt une opposition. Saint-Pierre qui est devant, le vrai disciple qui est derrière, Saint-Pierre qui se révolte contre la croix, le vrai disciple qui prend la croix. Donc il y a un jeu évidemment d'opposition qu'on peut aussi retrouver dans Jésus disait cette parole ouvertement. Le Christ parle avec franchise. Le faux disciple, en revanche, lui, a honte du Fils de l'homme. Donc le faux disciple, lui, il cache finalement sa foi, il cache son attachement au Seigneur. Donc il y a tout ce jeu de Jésus qui ouvertement fait œuvre de vérité, qui annonce ce qui va se passer, qui annonce qu'il marche vers la croix et que le vrai disciple est derrière lui. Et puis, à contrario, il y a le faux disciple qui veut se mettre devant Jésus, qui veut barrer le chemin de la croix, qui ne veut pas prendre sa croix, et qui, loin de parler ouvertement, eh bien, au contraire, a honte du Fils de l'homme. Donc au moment où Jésus monte vers Jérusalem avec ses apôtres, d'une certaine manière, il y a les deux chemins qui se présentent. Le vrai disciple, le faux disciple. C'est pas forcément le chemin du disciple et le chemin du pharisien, on n'en est pas là. On est dans des gens qui veulent être disciples de Jésus, mais certains qui le sont à la manière de Dieu, ses pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes, et puis d'autres qui veulent être disciples à la manière des hommes. Donc là, il y a un acte d'humilité aussi à poser. Est-ce que c'est moi qui définis comment je veux être disciple de Jésus, ou est-ce que je reçois de Jésus non seulement la direction, mais aussi le tracé du chemin. C'est Jésus qui me dit comment je suis disciple. Alors, vous l'aurez bien compris, c'est un mal qui nous gangrène énormément dans une époque qui est individualiste et relativiste, c'est-à-dire où chacun s'érige en créateur de la vérité. C'est devenu dans notre époque extrêmement difficile de garder une foi commune, parce que avant, quand on était hérétique, on quittait l'Église. On disait, l'Église, c'est la nouvelle Babylone, partons en vie. Et donc, on créait une autre Église, qui était censée être une Église plus pure, plus évangélique, etc. Depuis les années 60, c'est fini, ça. Les gens restent dans l'Église, mais tout en vidant la foi catholique de son sens. C'est-à-dire, ils disent, moi je suis catholique, mais je ne crois pas à la résurrection. Alors, vous n'êtes pas catholique. Et au nom de quoi vous pouvez me dire que je ne suis pas catholique? Qui êtes-vous pour me dire que je ne suis pas catholique? C'est objectif. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il est dit qu'il y a la foi, la résurrection des morts. Oui, mais le catéchisme de l'Église catholique, qu'est-ce que c'est? C'est l'enseignement du pape. Moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Donc, les gens gardent l'étiquette, mais vident tout ce qu'il y a derrière l'étiquette de son sens. Et donc, on devient disciple de Jésus, non pas comme Dieu le veut, mais comme les hommes le veulent. Et ça, on peut multiplier ça sur les questions de foi, sur les questions de morale, à l'infini. Et c'est vraiment un grand écueil, c'est vraiment un grand obstacle, parce que ça brouille évidemment le message de Dieu. Parce que les gens vont dire, mais vous, monsieur l'abbé, vous dites blanc, mais moi j'ai toujours entendu d'autres prêtres dire noir. Donc, qui a raison? Et c'est vrai que on a perdu cet esprit de docilité, de se dire, mais voilà, la foi est quelque chose que je reçois, non pas quelque chose que je construis. Je vais avec mon caddie au supermarché, puis je prends les articles de foi et les points de morale qui me plaisent. C'est ce que fait Saint-Pierre. Il veut bien de Jésus Messie, il veut bien de Jésus Maître, mais il ne veut pas de Jésus souffrant. Et là, je pense qu'il y a vraiment un examen de conscience à faire de notre part à tous. Est-ce que vraiment je prends tout de la révélation, je prends tout de l'enseignement de l'Église, que je prends tout de ce message de Jésus, ou est-ce que, quand ça vient un peu trop titiller ma vie, la question de sauver sa vie, perdre sa vie, c'est-à-dire accepter de se donner ou au contraire vouloir se garder et fermer les portes, fermer les fenêtres pour ne pas que l'influence du Christ nous change et nous convertisse. Quand ça touche de trop près à ma vie, à mon péché, à mes mauvaises habitudes, et que ça, comment je me positionne par rapport à ça?
S'il vous plaît.
Oui.
Ceux qui disent par communauté, mais je suis catholique, même si je ne vais pas à la messe, jamais, même si rien, zéro, c'est comme c'est quelque chose qu'il a reçu, qu'il a donné, qu'il a mis dans sa poche, il ne veut surtout pas qu'on lui enlève, mais par contre, il estime que les autres doivent être baptisés. Celui que vous écriviez, celui-là, s'il n'y a plus de baptisés, il est content, parce que lui, il a bien reçu le baptême, mais il ne veut pas redonner, quoi. Il ne veut pas rendre...
comme sa foi est morte, il n'a pas tellement le désir de la répandre, oui, c'est sûr.
Ceux qui ont été baptisés pour cette...
Qui
vont tenir tête au clergé ou aux fidèles.
Je suis
baptisé, je suis catholique.
C'est souvent ceux qui ont vécu le tournant des années 60-70 et puis qui ont fait une religion un peu à leur sauce. Il faudrait lire tout le livre de Guillaume Cuffet, Comment notre monde a cessé d'être chrétien, qui est passionnant. Et qui montre comment on est passé d'une religion beaucoup d'obligations. Il faut aller à la messe le dimanche, c'est comme ça, c'est ancestral, c'est ça. À les militants d'Action catholique et un certain clergé qui a dit mais ça c'est pas suffisant, il faut une adhésion personnelle, ce qui est pas faux d'ailleurs. Il faut plus de sincérité, il faut que la culture de la sincérité remplace la culture de l'obligation. Sauf que, à force de mettre l'accent sur la sincérité, la génération suivante, la génération des enfants, a dit, puisque le principal c'est d'être sincère, moi, sincèrement, je ne vais pas la messe. Mais vu que le principal c'est d'être sincère, il suffit de faire sincèrement les choses. Moi, je vais aider mon voisin quand il a besoin de moi, et à mes yeux, ça a plus de valeur que d'aller à la messe. Très bien. Mais du coup, avec ça, on perd petit à petit, parce que la génération des petits-enfants dit, moi, sincèrement, aider mon voisin, ça m'embête à les mettre. Donc, finalement, au nom de la sincérité, on est parti sur le gouffre de l'individu. Et quelque chose qui pouvait être au départ une intention tout à fait louable, c'est-à-dire mettre plus d'adhésion personnelle, mettre plus de conviction et plus de formation, ne pas en tenir à une culture de l'obligation de « on va à la messe pour aller à la messe », on ne sait même pas trop ce qui se passe à la messe, mais on sait qu'on doit y aller. Guillaume Cuchet raconte quand même des choses un peu amusantes aussi sur les confessions d'enfants, où les enfants allaient se confesser sans rien savoir du tout, et le prêtre lui disait, mais est-ce que tu t'es suicidé? Oui, monsieur l'abbé, mais combien de fois? Je ne sais plus. Parce qu'il avait vu la ligne sur l'examen de conscience, et puis comme il avait dit qu'il avait fauché beaucoup de péchés, donc c'est sûr qu'il y avait une absence aussi chez un nombre non négligeable de chrétiens d'une formation personnelle. Mais ce qui était sans doute un désir louable, est devenu catastrophique parce que justement cette valeur de la sincérité a tout emporté et c'est une valeur totalement subjective. Et la sincérité peut elle-même aller de pair avec une absence totale de formation. Justement, on peut après dire qu'on est sincèrement absent de la messe dominicale, qu'on est sincèrement absent de la charité, etc. Donc, cette réponse par la sincérité à quelque chose qui était sans doute un problème réel était une très, très, très mauvaise réponse. Et c'est sûr qu'elle nous a en partie conduit là où on est aujourd'hui.
Mais
Claire,
il était sincère.
Oui, c'est souvent ce que je dis. D'ailleurs, quand on parle de la sincérité, je me disais, et bien quand il disait que les juifs étaient sous-hommes et qu'il fallait tous les déporter, il était très sincère. Puis d'ailleurs, il a agi vraiment en conformité avec ce qu'il pensait sincèrement. Donc c'est sûr que la sincérité déconnectée de la vérité, c'est catastrophique. Et puis, il ne faut pas s'illusionner non plus. On ne fera jamais une église de chrétiens hyper convaincu, hyper formé, hyper adhérent, etc. Et donc, il y avait toujours une masse qui adhérait, effectivement, par l'obligation, par la prédication des fins dernières. Et cette masse-là, on ne peut pas dire non plus qu'elle était, que c'était des sous-chrétiens. C'est des gens qui vivaient leur foi, qui priaient, qui allaient à la messe, qui se confessaient. Alors, peut-être que les confessions étaient peut-être superficielles, etc. Mais n'empêche que qu'un cas, il s'acheminait vers le ciel en prenant les moyens de trouver l'église. Donc c'est sûr qu'il y a une espèce d'idéalisme dans les années 50-60 de vouloir faire des chrétiens parfaits, et en fait on a fait de parfaits athées. Donc autant on a bien réussi le parfait, mais on a moins bien réussi l'objectif. Mais... Oui, bien sûr. Enfin, mais après,
il y a peut-être pas de formation comme ça, mais regardez, il y a des enfants, puis dans les familles chrétiennes, on a fait ce genre de choses,
il me semble. Après, aussi, dans les années 50, mais c'est pareil, il faut relire tout le livre de Guillaume Cuchet, c'est-à-dire qu'il fait une carte de France de la pratique religieuse, donc évidemment, d'une région à l'autre, il n'y avait pas le même enracinement. À l'intérieur même des pratiquants, vous avez beaucoup de catégories différentes. Effectivement, les familles pratiquantes, qui vivaient de la foi, qui étaient pieuses, que vous aviez ce qu'ils appellent les chrétiens festifs, c'est-à-dire les chrétiens qui venaient seulement pour les grandes fêtes et qui se confessaient une fois par an. On aimerait que tous les chrétiens de nos enfants se fassent aujourd'hui une fois par an. Donc, ce qui était en années 50, la queue de peloton est devenue maintenant le maillot jaune, quasiment. Non, mais après, c'est dur de porter un jugement. Voilà, en bloc sur cette période, mais ce qui apparaît assez clair, bon après il y a de nombreuses raisons à ça, on en parlait toute la nuit, pourquoi le jeune clergé des années 50 se sent mal à l'aise ou ça, mais c'est sûr qu'il y a chez le jeune clergé un peu un décalage par rapport à la prédication des fins dernières et par rapport à une culture de l'obligation, donc aussi une vision assez moralisante de la vie chrétienne. Moi, je me souviens du l'ancien aumônier des frères, là, le père Jean Brun, me racontant dans le Haut-Doubs, quand il était plus jeune, le chrétien venant lui dire « Bon, j'ai coupé mon pain avec un couteau avec lequel j'ai coupé la viande hier soir, comme on est vendredi, est-ce que j'ai le droit de manger le pain ?» Parce que vu qu'il a touché la viande, c'est sûr que cette culture du scrupule, avait tout pour faire du mal aux chrétiens qui la vivaient et n'a pas semblé très attirante à un jeune clergé assez peu formé, assez sentimental, assez imprégné d'idées communistes, de justice sociale plus que de sainteté personnelle. Donc tout ça, ça a joué. Et puis il y a ces militants d'Action catholique qui objectivement avaient une meilleure formation que les autres, spirituellement, liturgiquement, mais qui avaient aussi des axes qui n'étaient pas toujours en place, notamment sur la justice sociale, mais là, ces militants pouvaient aussi regarder un peu de haut les autres et aspirer à ce que les autres s'élèvent vers quelque chose de plus personnel, de plus sincère. Mais comme on l'a dit, la sincérité ne faisant pas tout, tout ça nous a mené dans ce paysage où on est actuellement. Après, le but, c'est pas de donner des bons points et des mauvais points. Aux années 50 et ça. Mais effectivement, de voir un peu le panorama qui pourrait y avoir.
Parce que le clergé, à un moment donné, interdit le fait de couper de la viande, ces détails-là.
Non, je pense que il n'y a jamais eu d'enseignement, mais c'est vrai qu'il y avait un accent, il faudrait mesurer en fonction des lieux, des personnes, mais il y avait dans un certain nombre de régions un accent qui était mis sur les aspects de commandement et d'interdit, et c'est vrai qu'un certain nombre de chrétiens vivaient leur vie chrétienne dans la lumière de ces commandements et ces interdits, et notamment, il y avait un commandement de l'Église qui était très clair, qui était que on ne mange pas de viande le dimanche. On ne mange pas de viande le vendredi. Et donc, dans l'esprit d'un chrétien un peu scrupuleux, qui s'inquiète, qui a une nature inquiète, qui a une conscience peut-être trop pointilleuse, il se dit, si je mange du pain dans lequel il y a eu du jus de viande, peut-être que c'est finalement manger de la viande, donc je fais un péché grave. Donc si je fais un péché grave et que je meurs demain, ben, je vais en enfer. Donc il y a tout ça qui est derrière.
Ça, c'est un petit peu protestant,
c'est l'histoire
de...
Je pense que protestant, c'est
plus, on ne touche pas, mais l'autre peut se toucher. Ou...
je pense que là, c'est pas vraiment super
parfait. C'est un catholique, c'est pas catholique, pas avoir la foi de dire j'ai pas mis assez de produits vaisselle sur un truc ou quoi.
Mais oui, enfin nous ça peut nous paraître une étrangère d'esprit, mais enfin c'était pas une exception. Alors après voilà, il faudrait matiner en fonction des diocèses, en fonction mais c'était pas une exception que de raisonner ainsi. C'est-à-dire que il y avait une prédication jusqu'aux dans les années 30, des fins dernières, qui était très forte, sur le ciel, le purgatoire, l'enfer, la mort, chose que je considère très bonne. On disait clairement aux chrétiens, le but de votre vie, c'est de sauver notre âme, ce qui en soi est tout à fait juste. Mais, jusque-là, c'est juste. Après, c'était peut-être un peu moins juste, au sens où sauver son âme, ça voulait pas vraiment dire devenir des saints, devenir des amis de Dieu, cultiver cette amitié avec Dieu. Certains le vivaient ainsi. Mais pour la majorité des chrétiens, sauver son âme, ça veut dire s'abstenir du péché grave, du péché mortel qui mène à l'enfer. Quand vous êtes dans une religiosité où les balises, c'est sauver son âme, et pour sauver son âme, éviter le péché mortel, là, vous passez une partie de votre réflexion de conscience à éviter le péché mortel. Alors, soit de façon sincère, c'est le cas de le dire, en demandant à votre curé de vous éclairer, soit de façon moins sincère, en essayant de définir où est la ligne jaune, c'est-à-dire jusqu'où je peux pécher sans tomber dans le péché grave, et en menant ma vie chrétienne à peu près comme ça.
C'est quand même très facile de bien laver un couteau.
Il y a beaucoup de choses. Il y a l'influence du jansénisme du XVIIe siècle qui a perduré dans les manuels rigoristes qui ont été en vogue jusqu'au XIXe siècle dans un certain nombre de séminaires en France, puisque il y avait deux courants qui s'opposaient, donc le courant rigoriste et le courant plus doux, qui était notamment porté par saint Alphonse de Ligori. Donc on dit les ligoristes et les rigoristes, et les rigoristes disaient ce farceur de Ligori, parce qu'ils trouvaient que saint Alphonse de Ligori, c'était vraiment de la blague. Alors quand vous lisez saint Alphonse aujourd'hui, vous voyez que c'était pas non plus un babacool qui fumait du shit à Woodstock, quoi. C'était quand même déjà plutôt exigeant, mais les rigoristes c'était encore plus exigeant. Donc il y a eu tout ça qui a perduré jusque dans les années 30 dans un certain nombre de diocèses de France, du fait notamment de cette formation des prêtres, du fait du climat aussi au 19e siècle, cette atmosphère victorienne, pudibonde aussi, qui n'était pas authentiquement catholique, pas catholique, mais qui a influencé aussi l'Église et les hommes d'Église. Et puis, ouais, dans les années 30, c'est un petit peu la fin de ce modèle-là. Quoi. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui monte, influencée par le modernisme du début du XXe siècle, influencée par les amitiés avec les communistes dans les camps de prisonniers ou dans le réseau de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une nouvelle génération qui voit que les générations précédentes n'ont pas réussi la grande œuvre envisagée qui était la recristianisation massive de la France et que en fait, l'Église a réussi à tenir à peu près ses positions avec une légère érosion, mais qu'elle n'a pas vraiment reconquis de place, qu'elle n'a pas conquis les ouvriers notamment. Et donc, ben, ils vont se dire, si cette prédication sur les fins dernières avec Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, Charles de Foucault, Don Marmion comme figure tutélaire des années 20 et 30 n'a pas réussi, eh bien, on va faire autre chose. Donc, au lieu de dire qu'on va sauver son âme, on va d'abord faire communauté. Au lieu de parler des fins dernières, on va parler de justice sociale. Au lieu de parler de Don Marmion, on va plutôt parler de l'abbé Pierre, etc. Et donc, il y a le balancier, malheureusement, comme souvent les fins de l'Église, s'arrête rarement au milieu. Quoi. Donc, plutôt que d'essayer de tenir les deux bouts de la chaîne et de faire un équilibre, je vais passer directement d'un équilibre à l'autre. Et donc, toute cette culture de l'obligation, qui avec elle portait des valeurs très belles, la présence à la messe, la présence au confessionnal, la prière, la sève, etc. Ben, tout est parti. On est assez loin de Saint-Pierre et du vrai disciple. Enfin, voilà, c'est tout ça pour dire que cet écueil de Saint-Pierre, les pensées de Dieu qui ne sont pas celles des hommes, c'est pas quelque chose qui est arrivé seulement à Saint-Pierre en l'an 32. Mais c'est quelque chose qui est aussi très très actuel et sur lequel la mentalité contemporaine souffle sur les braises parce que elle nous entretient dans cette idée que le principal étant d'être sincère, une fois qu'on a dit qu'on était catholique, comme dit Jean-Charles, une fois qu'on a reçu le tampon du baptême quand on était petit, après on peut tout faire.
Moi je vais vous dire, comme tout le monde sûrement sait, j'ai pas eu une éducation catholique du tout, mais je vais vous dire, toujours jusqu'à maintenant, manger de la viande le vendredi.
Jamais.
Non, toujours. Moi, je viens de dire ce que je viens de dire, je trouve que c'est un bon moyen de retour à la foi, pour celui qui a la foi, peut-être, mais qui n'a pas eu une éducation catholique plutôt l'inverse. Ou d'évangéliser, d'aller chez son poissonnier le vendredi. Voilà. J'ai toujours en fait mangé ou pas de la viande le vendredi. Et je voudrais savoir à présent pourquoi on est catholique et qu'on veut suivre les préceptes et principes de l'Église et de Jésus-Christ, pourquoi le poisson vendredi, je l'ignore.
Alors, la raison la plus simple, c'est que le vendredi est le jour de la mort du Seigneur, et le jour de la crucifixion, donc il est le jour de deuil par excellence, et la viande, jusqu'à une époque très récente, est associée à la fête, et notamment au Moyen-Âge, où la viande est rare, est chère, on ne mange de la viande... qu'à une occasion festive, encore que dimanche, mais qu'à une occasion festive. Donc la viande née et denrée festive par excellence ne convient pas du tout au jour où au contraire on fait pénitence et où on essaye par l'austérité de notre vie justement de participer à la croix du Christ et de faire mémoire de cette tristesse de la Sainte Vierge au pied de la croix. Donc c'est pas le jour où on va ouvrir le champagne et sortir le magasin. Donc c'est la première des raisons. Après, d'autres auteurs disent que on ne verse pas le sang le jour où le Christ a versé son sang. Mais ça me paraît déjà une explication en second lieu plus symbolique et plus allégorique. Mais la première,
plus vegan.
Donc la première explication me paraît la meilleure. Et si on comprend du coup non seulement la lettre mais aussi l'esprit de cette demande de l'Église. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne mange pas de saumon fumé et des coquilles Saint-Jacques préparées aux petits oignons le vendredi, parce que sinon, on respecte la lettre, mais pas l'esprit. Donc l'esprit et la lettre, c'est évidemment une nourriture sainte. Hein. Faites une omelette, ou faites un poisson pané. Vous ne
faites pas livrer des sushis avec Hubert.
Non,
Hubert à vélo.
Mais non, c'est un autre sujet. Mais donc voilà, si on veut comprendre l'esprit de la lettre, et typiquement, si vous avez dans votre frigo une viande dont vous savez qu'elle ben, ne va pas passer la journée, qu'elle va être périmée, et ça, dans l'esprit, il vaut mieux finir cette viande plutôt que manger du saumon. Quoi.
Et jeter la viande.
Jeter la viande.
Bon, j'ai passé beaucoup de temps sans manger de viande, donc j'ai dû passer quand même des vendredis sans manger de viande.
Ah,
j'ai passé quelques heures quand même. Quelques...
garde avec nous.
Je mange de la viande, mais je ne mange pas énormément. Et si, vraiment, je mange autant en hiver, en fait. Et j'ai passé pas mal de vendredis sans manger de viande, sans le savoir, vous voyez.
Ah, alors là, oui.
Ce sera mieux maintenant, maintenant, le sachant.
Ah, bah ça dépend. Ah,
maintenant, le sachant, ça ira beaucoup mieux.
Ah, mais bon, quoi, j'ai rentré le ventre, je sais pas.
Ça ira beaucoup plus léger.
Mais bon, on ne peut pas savoir des choses qu'on n'a pas, qu'on ne nous a pas, ni à l'école, ni à la maison.
Bien sûr, sinon.
Là, je vous dirais que dans la vitrine de la foi catholique de PSV 70, alors, ne pas manger de viande le vendredi, c'est plutôt dans l'arrière-boutique. Hein. Vous ne voyez pas d'entrée en rentrant dans le magasin. Ah, c'est oui, truc, c'est plus personne n'en parle.
Oui, oui. Mmh.
Avant, les poissonniers, toute la société était organisée, et tous les corps étaient organisés selon l'évangile, la foi, l'église, si on veut, selon la religion, la religion, et les poissonniers se préparaient toute la semaine au vendredi, disons, demain c'est là qu'on pourra bosser.
Alors ça reste quand même dans un certain nombre de traiteurs, de restaurants, donc le restaurant là qui est au coin de la rue, assez souvent le vendredi, son plat du jour, c'est quand même un plat de poisson. Ça reste quand même, mais c'est sûr que si l'Église ne le fait pas vivre, ça risque de... Et c'est vrai que même au sein du diocésain, ils servent de la viande le vendredi. C'est un peu
hallucinant.
Non, ça m'étonne pas, mais c'est... Enfin, ça m'étonne à un certain degré, mais...
Ah, pour y être un tas, nous aussi. Bon, à partir de maintenant, chez moi, vous ne mangerez pas de viande le vendredi. Vous avez...
Et c'est vrai que... On peut... Il y a une dimension culturelle, c'est-à-dire que on pourrait dire... Et notamment tous les traumatisés des années 50 vont vous dire « Oui, mais c'est pas ça l'essentiel, le principal, c'est la charité, soit Jésus, mais qu'est-ce qu'il y aura à faire que tu manges de la viande, du poisson ou un œuf vraiment, est-ce que tu crois que c'est ça que Jésus il attend du disciple ?» Mais ça, c'est idiot comme raisonnement, parce que notre foi, elle n'est pas une foi dans les nuages, elle est une foi qui se vit au quotidien, elle est une foi qui rayonne à travers une culture. Parce que l'homme, il vit dans une culture, il ne vit pas que dans la nature, il n'est pas Robinson Crusoe. Donc, cette manière de marquer les temps, de marquer le vendredi, de marquer le dimanche, ça avait une influence sociale et ça faisait rayonner l'évangile partout. Parce que, justement, quand on tient, je n'ai pas une fixation là-dessus, mais quand on tient le fait de manger du poisson, et en tout cas pas de viande le vendredi, et qu'on le fait dans les établissements religieux comme à la Marne, comme au centre diocésain, et après il y a des gens qui vont vous dire, qui vont appeler le centre diocésain en disant « on voudrait des repas pour vendredi, ah oui, mais là, nous on propose, tac, 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 poisson, œuf. Ah oui, mais vous n'avez pas de viande, monsieur ?» Ben non, enfin, pourquoi ? Parce que le vendredi, c'est le jour de la Passion de Jésus, donc en tant que... C'est une manière là, de faire rayonner l'évangile et de montrer comment l'évangile s'inscrit dans la vie. Et le côté, Jésus au-dessus de ça, mais Oui, mais Jésus est au-dessus de beaucoup de choses, en fait, parce que maintenant, on en est à dire que Jésus est même au-dessus de l'unité du mariage chrétien. Donc, je ne sais pas à quelle altitude il se trouve, mais il vient vraiment au-dessus de beaucoup de choses. Donc,
Il plane, hein.
La réunion du catéchumène, là, il y a quand même un accompagnateur qui était choqué que, la responsable du catéchumène ne trouve pas évident de présenter au baptême quelqu'un qui est divorcé, remarié. Ce qui peut paraître assez logique de ne pas la présenter au baptême sans, sans un discernement, c'est-à-dire sans voir déjà si elle vit comme frère et sœur avec l'homme avec lequel elle se trouve, ce qui est la seule condition pour laquelle elle puisse être baptisée, et encore en secret. Bon, alors, la responsable a essayé d'expliquer, voilà, que, d'expliquer à cette dame que c'était pas tout fin. Et il y a un gars qui était là, qui est un accompagnateur de catéchumène, et puis qui vous dit, tout ça, c'est du canonique. C'est le principal, mais c'est qu'elle sache que Dieu l'aime, et puis après tout ça, c'est pas grave. Donc là, Jésus, il est au-dessus de ça aussi, il est au-dessus de l'unité du mariage chrétien. Après, on sait pas au-dessus de quoi il va être, mais on en revient toujours à les pensées de Dieu ou les pensées des hommes. Est-ce qu'on se refait sa foi, est-ce qu'on se refait sa morale? Bon, moi, accessoirement, je lui dis à ce non, c'est pas canonique, ça s'appelle le mariage chrétien. Cette dame, elle a un mari quelque part sur la terre, et c'était pas l'homme avec lequel elle vit actuellement, donc c'est pas du canonique.
Des enfants pour faire une mère.
Donc, voilà, donc il y a un petit souci. Alors, ça veut pas dire que cette dame, il faut la brûler en place publique, ça veut pas dire qu'il faut. Il y a une pédagogie à avoir. Il y a expliquer pourquoi l'Église enseigne cela, voir s'ils ont des enfants. S'ils ont des enfants, bah, leur dire qu'effectivement, l'Église ne veut pas que les enfants soient lésés, donc l'Église ne demande pas la séparation de ce deuxième couple, mais demande en tout cas à ce que ce couple ne vive pas charnellement comme mari et femme, parce qu'ils ne sont pas mari et femme. Donc voilà, il y a tout un accompagnement, toute une pédagogie, et que si cette dame, effectivement, bah, elle vit ainsi dans cet état, moi, je pense qu'on peut l'admettre au baptême, alors de façon discrète, parce que faut pas que ce message brouille l'autre message, en la voyant être baptisée, faut pas que les gens disent, ben, c'est bon, donc, finalement l'Église a aboli l'indissolubilité du mariage, non. Et donc il y a toute une pédagogie à faire, qui n'est pas faite quand on dit bon, tout ça c'est du canonique, pourvu que Dieu les aime, et tout ira bien. Dans ce cas-là, on va aller très très loin, je pense. Parce que Dieu nous aimera toujours. Si en balance, c'est l'amour de Dieu et on fait tout ce qui nous passe par la tête, ça risque d'être compliqué.
Vous ne croyez pas, c'est parce qu'en fait, ils n'ont aucune formation, qu'ils sont incapables justement de donner une explication correcte. Alors, Jésus est au-dessus de ça, puis voilà.
Quand un paroissien dise ça, très bien, il le dit et il est enseigné. Mm-hmm. Et quand un accompagnateur du baptême le dit, c'est un peu plus problématique. Quand la responsable du catéchuménat n'est pas capable de l'expliquer clairement, ça devient encore plus problématique.
Ils n'ont pas de formation sérieuse.
Il y a des prêtres aussi.
Moi, j'ai essayé d'amener puisque j'étais divorcée. Le fait qu'on vive notre sacrement en fidélité, bah, deux enfants, c'est un peu. J'ai pioché, j'ai tous les curés.
Moi, je
suis. J'ai aimé ces messieurs dames qui étaient mariées avec eux.
Mais je vous dirais que je suis monté aussi au créneau lors de cette réunion, non seulement pour défendre la vérité du mariage chrétien, mais aussi parce que dans l'assemblée, il y avait une dame qui, justement, veut rester fidèle à son mariage alors que son mari l'a quitté. Et je me disais, mais c'est terrible pour elle, parce qu'on est en train de lui dire, mais bon, tout ça, c'est du canonique, ma grande, pourquoi tu t'embêtes à vivre... dans la fidélité à un mari qui est parti, remarie-toi, tout le monde fait comme ça. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que sous couvert d'être sympathique, d'être ouvert, d'être large d'esprit, Dieu vraiment prend tout en compte, en fait on ne se rend pas compte, mais qu'on blesse les gens. On veut être hyper cool, hyper mou, hyper... Mais en fait, on blesse, parce qu'il y en a qui... cette dame qui va être fidèle, et là, on leur dit tout ton héroïsme, en fait, ça ne sert strictement à rien. Quoi.
Elle a au moins la reconnaissance des enfants, parce qu'il y a certainement des enfants qui
Oui, bien la reconnaissance de l'abbé Moreau, et je prendrai pas mal d'autres noms, mais c'est pas évident. Mais.
Non, elle a certes la reconnaissance de ses enfants, de dire oui, maman, tu as bien fait de.
C'est fidèle.
De intervenir à un autre chez nous, ou chez toi, ou dans ta maison.
Surtout, elle a la reconnaissance de Dieu,
les enfants qui le. Les enfants, les personnes, les adultes qui l'ont vécu, voilà.
C'est vrai que ce sont des cas qui vont se multiplier plus en plus, et notamment pour ces questions de mariage, parce que voilà, beaucoup de personnes n'ont pas eu une bonne préparation au mariage, se sont engagées trop vite, sans suffisamment de discernement, et puis après, voilà, s'affrontent au mur de la séparation, là aussi, ils n'ont pas forcément les ressources de foi pour faire le choix héroïque que peuvent faire les personnes qui restent seules. Donc, c'est pour ça que je ne jette pas la culpabilité sur les personnes qui se retrouvent en bout de chaîne. Il y a toute une chaîne avant qui les a amenées là, mais au final, c'est vrai que ça va être de plus en plus compliqué. J'avais aussi Juliette Liner au téléphone, certains d'entre vous connaissent, qui accompagne des adultes à la confirmation, qui m'a appelé en disant... Là, dans les adultes que j'accompagne, il y en a une qui doit se faire marier. Est-ce que vraiment elle recevra cette commande de confirmation? Et ça va être un petit peu. Maintenant, à tous les étages des sacrements, il va y avoir cette question. Parce qu'effectivement, on n'éduque plus à la fidélité. Le pape François disait bien que les préparations au mariage aujourd'hui, c'est souvent bâclé, donc on n'éduque plus aux exigences du mariage. Mais après, le problème, c'est qu'une fois que les gens sont mariés, l'exigence, bien préparé ou mal préparé. Si le sacrement est valide, il est valide. Quoi. Donc, après, il est peut-être nul d'emblée, mais s'il est valide, il est valide.
Je ne sais pas si c'est les préparations du mariage qui sont bâclées ou si ce n'est pas vraiment un problème pour les prêtres. Tu vois bien que les futurs mariés n'ont pas de formation, ne sont pas mûrs. Enfin,
en tout cas, je disais que sur Besançon, il y a un certain nombre de prêtres qui ne participent pas à la préparation au mariage des personnes qui marient. Ça, c'est quand même problématique. C'est-à-dire qu'ils ont délégué au CPM la préparation au mariage. Alors après, ils verront les mariés, les futurs mariés, une fois pour parler des textes, pour parler de la liturgie, etc. Mais ce n'est pas la préparation qu'on est en droit d'attendre. D'autant que les CPM, les préparateurs ne sont pas tous, et on a le cas sur Besançon, donc c'est très clair, ne sont pas tous formés à la même enseigne, donc certains sont bien formés, d'autres sont mal formés. Et puis, si vous faites une réunion de préparation collective, évidemment qu'il y a peu de chances, malheureusement, que des choses intimes ressortent. Sauf si à l'intérieur d'un week-end commun, vous avez des temps individuels, et sinon, donc finalement, et là encore, c'est pas François qui dit ça dans Maurice Laetitia, c'est un chapitre qui m'a plus que d'autres. Il disait voilà, qu'il y a quand même une réflexion à faire sur les préparations au mariage, parce qu'aujourd'hui, de déléguer comme ça au CPM, dans lequel il y a à boire et à manger, et en plus souvent de faire des préparations communes à plusieurs couples, vous envoyez des soldats au front avec des fusils en bois dans les mains. Et c'est ça en fait, clairement. Vous envoyez des mariés sur le champ de bataille de la vie, ils n'ont rien reçu. Quasi rien.
Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de prêtres qui se sentent impuissants devant ces situations-là. Ils sentent bien que ces futurs mariés ne sont pas solides, ne sont pas formés.
Il y a un principe très clair. Si vous pensez que les personnes que vous avez en face de vous ne sont pas au clair sur l'indissolubilité, l'unité, la fécondité du mariage, il ne faut pas les marier. C'est aussi simple que ça.
Pas à l'église.
Je ne dis pas sur la foi, parce que la foi, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué à évaluer. Et puis, si ces personnes sont baptisées, au nom de leur baptême, elles ont un titre à ce que leur curé les marie. Donc, c'est plus difficile sur la question de la foi. En revanche, sur la question des piliers naturels du mariage, unité, indissolubilité, fécondité. Là, le prêtre préparateur signe un dossier, on remplit un dossier avec les noms, le prénom, la profession, etc. Et à la fin, il y a marqué « Je, sous-signé, Jean-Baptiste Moreau, certifie que le fiancé a été mis au courant et s'engage sur l'unité, l'indissolubilité, la fécondité du mariage chrétien. » Et si on a un doute fort, pas suffisamment fort pour refuser le mariage, mais quand même un doute, il faut joindre un courrier au dossier de mariage. Ce courrier confidentiel sera gardé par l'évêché, et comme ça, s'il y a un procès de nullité dans quelques années, eh bien, ce courrier servira, ce sera pas la seule preuve, mais il ira dans le sens de se dire, bah, oui, la suspicion de nullité de mariage s'appuie sur déjà l'avis du préparateur qui est extrêmement réservé. Mais ça, c'est si on a un doute. Si on n'a pas de doute, si on a vu, c'est pour ça qu'il faut quand même discuter avec eux, mais si on voit au cours des discussions que la personne n'est pas claire, et si on la fait un peu rentrer dans ses retranchements, et qu'elle dit non, mais moi l'indissolubilité, j'y crois pas. Aujourd'hui, plus personne ne se marie pour la vie, nous on se marie, voilà, puis on verra bien, et puis si on doit se séparer dans 10 ans, on se sépare dans 10 ans. Quelqu'un qui vous dit ça, vous ne mariez pas l'Église. Il tient pas l'indissolubilité. Pareil pour l'unité, si la future épouse vous dit non mais bon, moi mon mari, bon, il ira voir ailleurs, et puis bon, c'est comme ça, je sais que je ne peux pas le contenter tous ses désirs sexuels, donc je ne peux pas le marier. Mais après, ne pas le marier, c'est sûr que vous ne faites pas des amis, vous perdez le casuel de mariage, etc. Perdez 166 euros dans les caisses. Après, vous avez la réputation du prêtre qui ne marie pas, donc seulement vous perdez le casuel qui est en face de vous, vous perdez les 10 casuels suivants, parce que les gens iront se marier dans une autre commune. Mais il y a un moment, voilà, c'est... Oui, il faut déjà les préparer, discuter avec eux, savoir un peu ce qu'ils ont dans le ventre, et puis s'ils n'ont rien dans le ventre, ou s'il leur manque l'unité ou l'indissolubilité ou la fécondité, si vous dites, non, nous, on n'aura pas d'enfant. Ça ne nous intéresse pas du tout, on a acheté un chien, je dis. Vous ne pas les marier. Ça veut pas dire qu'ils auront forcément un enfant. Moi, j'ai marié des gens, ils avaient 85 ans. On ne veut pas avoir d'enfant. Mais ils n'avaient pas mis d'obstacle en avant. Mais. Donc, voilà, je mets la question de la foi un peu à part. On ne peut pas, en tant que tel, vraiment, où il faut que la foi ait un impact sur les points suivants, mais je mets un peu la question de la foi à part. Mais sur les valeurs naturelles du mariage, là, il faut vraiment être clair. Et c'est le meilleur service à rendre.
Mais ça ne passe pas comme ça partout.
Les dossiers de mariage sont les mêmes partout. Les dossiers de mariage, c'est les mêmes partout. Je peux vous le montrer. Non, les dossiers, ça s'appelle le dossier administratif du mariage. C'est un document réglementaire, nomenclaturé, et ça, c'est les mêmes pour tous les prêtres. Donc il y a des prêtres qui signent, puis bah, ils signent. On leur a mis confiance, mais. Et surtout, je pense qu'il faut être audacieux. Oui, moi, j'ai marié des gens, pour certains gens qui n'avaient pas la foi, qui n'étaient même pas chrétiens, ou qui étaient de confession chrétienne différente. Moi, je leur donne la même formation qu'aux autres. Je leur dis pas, on se verra deux fois que ça. Non, on se verra 7 ou 8 fois comme les autres. Et si vous ne voulez pas, ciao, quoi. Vous faites pareil quelqu'un d'autre, quoi. Et je vous dirais que tout le monde reste. Parce qu'en fait, ils sont contents. Ils voient qu'on prend du temps pour eux, qu'on discute avec eux, c'est un système de questionnaires, c'est assez interactif, etc. Et puis au moins, à la fin, ils me disent, mais merci. Parce qu'on sait ce que c'est maintenant le mariage chrétien. Et voilà, c'est pas pour pas pour m'en français, tous les confrères de la fraternité font la même chose, et sans doute d'autres communautés, mais pour dire, voilà, faut aussi être audacieux, et puis si d'emblée on dit, voilà, bon, il est tiède, moi je vais marier un orthodoxe, je vais marier un protestant, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont comprendre, on est